Bonsoir à toutes et à tous. Essayez de vous asseoir. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez tous, la semaine prochaine, c'est Hanouka. Alors, je vous dis à titre d'information, ne m'allumez pas, mais il n'y a pas cours à Hanouka, d'accord ? Donc, je suis censé faire un cours aujourd'hui sur Hanouka. Mais, étant donné que j'ai un peu trop abusé sur mon emploi du temps, je suis pas très net ce soir, donc je vais essayer de vous faire quelque chose. D'accord ? J'espère que ça rentrera dans la cassette parce que j'en ai besoin pour la suite des événements. Alors, vous savez que Hanouka, on commémore essentiellement le miracle de la Hanoukia, que les Israël et les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre. Et puisqu'ils ont gagné la guerre, ils ont récupéré le temple, ils ont purifié le temple, et ils ont décidé de faire la mitzvah de la menorah. Alors, si vous regardez un sefer qui s'appelle Megillat Ta'anit, vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des pieux en acier, et ils ont mis dessus des petites coupoles, et ils ont fait brûler de l'huile. Et tout le monde connaît le miracle qu'il n'y avait plus d'huile qui était cachère, c'est-à-dire qui avait conservé le tampon de kashrout, de kohanim, c'est-à-dire de pureté. Ils ont trouvé juste une fiole, et avec cette fiole-là, ils avaient juste de quoi allumer une journée, et le miracle, il a duré 8 jours. Mais dans les commentaires, se demande, en fin de compte, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, ils ont gagné la guerre. En plus, ils ont gagné la guerre de manière très très spectaculaire, puisque c'est marqué, comme on le dit pendant les 8 jours dans la prière, Rabim Biyad Moatim. Donc, le grand nombre, il est tombé entre les mains du petit nombre. C'est-à-dire que les Hashmonaïm étaient en très petit nombre, ils ont gagné la guerre, alors que les autres étaient des centaines de milliers. Zedim Biyad Oske Torah Techa, c'est les Tzadikim qui étudient la Torah qui ont gagné contre les Rechaïm. Timeim Biyad Teorim, les impurs entre les mains des purs. Et puis la guerre en elle-même, elle s'est passée avec vraiment des faits extraordinaires. Mais on voit qu'on ne fête pas la victoire. On n'a pas fêté la victoire. Qu'est-ce qu'on a fêté ? On a fêté le fait qu'ils ont décidé de faire la mitzvah de la menorah et ça a marché. Comme si vous voyez une histoire avec plein de choses extraordinaires qui se passent. Et puis un détail. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le miracle de la mémoire. Mais avant ça, il y a eu des dizaines et des dizaines de miracles. Ils étaient soumis. Ils étaient écrasés. Ils n'avaient pas le droit de faire les mitzvot. Ils se sont révoltés. Une petite bande comme ça. Et ils ont repoussé l'ennemi. Et la seule chose qu'on a retenue, c'est le fait qu'ils ont pris une fiole d'huile. Ils l'ont versé, il y avait de quoi une journée, et ça a brûlé 8 jours. Alors il faut se demander, premièrement, pourquoi est-ce qu'on a retenu juste ça ? Deuxièmement, il faut se demander aussi, qu'est-ce qu'eux, ils ont cherché à faire ? Parce que même si on dit qu'ils avaient l'intention de remettre en place le Misbéar, de remettre en place le Beth Amikdash, le temple, il y avait plein de choses à faire dans le temple. Ils auraient pu, par exemple, refaire un hôtel cachère, et faire des sacrifices. Non. La première chose qu'ils ont voulu faire, c'était faire la mitzvah de la menorah. Ça fait partie des mitzvot qu'on accomplissait au temple. En plus, ils ont voulu le faire avec de l'huile pure. Pourquoi ils ont voulu le faire avec de l'huile pure ? Alors qu'on a une halakha, on a une loi, que Touma Trouya Betzibour. L'impureté, elle est repoussée dans la communauté, c'est-à-dire que si toute une population est impure du fait de la guerre, parce que par la guerre ils sont rentrés en contact avec les morts. Oui, quand vous transpercez quelqu'un avec une épée, au bout d'un certain temps vous êtes en contact avec un mort. Ça dépend où vous mettez l'épée en général, mais si vous la mettez là où il faut, normalement vous devenez impur. Donc la majorité du peuple, enfin de ces gens-là, étaient impurs. En plus, c'était des Kohanim. Donc, étant donné qu'ils étaient tous impurs en majorité, ils avaient le droit d'utiliser de l'huile qui était impure pour faire la mitzvah. Eux, ils ont dit non, on veut faire cette mitzvah-là, et on peut, en plus, on veut le faire avec de l'huile pure. Et pour avoir de l'huile pure, il fallait 8 jours. parce qu'on prenait certaines olives qui étaient à certains endroits. À certains endroits. Il fallait 3 jours pour aller, 2 jours pour les faire, pour faire l'huile, et 3 jours pour revenir. Donc de toute façon, au moment où ils ont allumé la menorah, il fallait que ça dure 8 jours. Parce que de toute façon, ils n'avaient pas d'huile. Donc il n'y avait que cette huile-là. Donc il fallait que ça dure 8 jours pour que ça tienne jusqu'au moment où ils auraient à nouveau de l'huile. Bon, il y a plein et plein de questions, vous verrez. Il y a plein de commentaires, vous aurez l'occasion de voir. Sur Hanouka, moi je vais juste prendre un petit élément qui est pas petit, qui est fondamental. C'est de comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient intéressés à ce que il y ait ce miracle de la menorah. Pourquoi ça? Alors pour comprendre ça, comme d'habitude, il faut faire un petit peu le tour d'un autre problème qui n'a rien à voir. C'est le problème de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, la joie. Vous savez, Hanouka, c'est la fête de la joie. Tout joyeux. Alors, il faut définir ce que c'est, comment ça marche, comment est-ce qu'on l'atteint, et on va voir le rapport que ça peut avoir avec cette notion qu'on vient de définir. C'est marqué « En simcha ila ka'atara tasfekot ». Il n'y a de joie que dans la résolution des doutes. C'est le langage des Géonim. Ça veut dire que celui qui a une question, il a la joie de la réponse. Celui qui a un problème, il a la joie de la solution. Celui qui a un manque, il a la joie quand il trouve ce qui comble le manque. Donc on voit toujours que la joie, c'est le résultat du lien entre deux morceaux qui vont bien. Quand vous avez un billet de 100 dollars, mais coupé en deux, vous avez un morceau dans une poche et un morceau dans un placard. Vous n'êtes pas très joyeux. Le pire, c'est quand vous retrouvez le morceau qui est dans le placard et que vous ne retrouvez plus le pantalon, vous avez mis l'autre morceau. Ça, c'est vicieux. Mais si vous retrouvez les deux morceaux et vous les mettez l'un à côté de l'autre, vous dites « Ah !» C'est la joie. Le fait de mettre ensemble les éléments qui se concordent, c'est-à-dire le résultat de la complémentarité, c'est la joie. Quand vous voyez un homme et une femme qui vont bien ensemble, c'est de la joie. Mais pas de la joie si je me grasse le ventre, ça me fait du bien. La vraie joie. Or, la joie, elle est toujours synonyme de complémentarité. Elle est toujours synonyme d'entité. Quand vous avez un puzzle qui est tout mélangé, c'est moche. Quand vous avez la photo toute reconstituée, c'est beau. La joie, c'est ce qui est toujours lié à ce qui est complet, ce qui est entier. Tu vois ce qu'on sait ? On a déjà eu l'occasion de faire cette démonstration plusieurs fois. On a vu dans la paracha, Yaakov est venu, il s'est battu avec l'ange de Esav. Quand il a gagné, il a demandé « Bénis-moi ». L'ange lui a dit « Je ne peux pas te bénir ». Le Midrash a dit qu'il était pressé de partir. Pourquoi il était pressé de partir ? Parce qu'un ange, à partir du moment où il a fait sa mission, ça lui donne le droit de dire la louange d'Hachem. Donc l'ange, il a été créé pour une certaine mission. La récompense à la mission, il monte au ciel et il dit devant Akadosh Baruch Hu « Kadosh, Kadosh, Kadosh ». Il a le droit de dire ça. C'est le but de sa vie, c'est ça. Le but de sa création, c'est ça. Maintenant, lui, cet ange-là, il avait pour mission de mettre à l'épreuve Yaakov Avinu. Il l'a mis à l'épreuve. Il s'est battu avec lui toute la nuit. Qu'il ait gagné ou qu'il ait perdu, c'est pas son problème. Ce qui compte, c'est qu'il l'a fait. Maintenant qu'il l'a fait, il veut vite partir pour accomplir son but. Quel est son but? Dire la louange. Yaakov Avinu, il dit non, tu pars pas, tu me fais une bracha. Il dira à Dessler pourquoi il était tellement pressé de partir. À cause de ce principe-là, qui est écrit dans une autre Gemara, que Kolamagia l'Eshlemut Omershira, tout celui qui arrive à l'entité, à être entier, il dit un chant. Il y a plusieurs façons de comprendre. Première façon de comprendre, c'est que quand on réussit quelque chose dans la vie, on a une mitzvah de louange. On fait le hallel. D'accord ? Mais il y a une autre façon de comprendre. C'est que c'est inscrit dans la nature. Chut, s'il vous plaît, taisez-vous, je suis fatigué. C'est inscrit dans la nature que à chaque fois que quelqu'un réussit quelque chose, il a envie de chanter. Depuis l'ange, jusqu'à la petite fille qui fait un pâté de sable, jusqu'au type qui a réussi son bac, jusqu'à celui qui a réussi à avoir un enfant, quand on réussit quelque chose, on chante. C'est comme ça. Qu'est-ce que le chant ? Le chant, c'est l'expression extérieure de la joie intérieure. La différence entre la joie intérieure et la joie extérieure. La joie extérieure, c'est quand on vous gratte, quand on vous chatouille. Ça fait rigoler. On n'est pas joyeux. Oui, c'est un certain niveau d'excitation des nerfs de la peau. Quand il y a une joie superficielle et quand il y a une joie intérieure. La joie intérieure, c'est le résultat de la rencontre de deux éléments complémentaires. Toujours, rappelez-vous de ça. Or, entier, c'est quoi? C'est le résultat de la rencontre de deux morceaux complémentaires. C'est entier. Quand un ange, l'ange, il a la mission, alors quand il remplit la mission, il est entier. Quand un homme, il a un but, il atteint le but, il est entier. Quand il est entier, il chante. C'est inscrit dans la nature. C'est pour ça que celui qui triche au bac, il ne chante pas après. Parce qu'il n'a rien atteint. Il a le bac, mais il n'a pas atteint le bac. Je vais vous dire mieux encore. Si on comprend que tout le phénomène de l'examen, par excellence, c'est pas pour vérifier les connaissances, parce que de toute façon, tu as eu déjà des interros tous les mois, tu as eu des partiels trois fois, donc c'est pas pour vérifier les connaissances, l'examen. L'examen, c'est pour devenir ce que tu as appris. C'est ça, l'examen. Parce que tu as toute une somme de connaissances qui est cumulée dans ta tête, mais est-ce que tu es capable de tirer l'essentiel et de l'appliquer dans la vie courante? Alors l'examen, c'est la confrontation avec l'épreuve qui t'oblige à réaliser ce que tu sais, donc à devenir ce que tu es. C'est ça un examen. Alors le même principe que le bac ou n'importe quel examen, qui en vérité, on a bien compris maintenant, n'est pas un test de connaissance, mais un examen de maturité. Je dirais même mieux, un exercice de maturité. Donc, de la même manière, l'épreuve en général que HaKadosh Baruch Hu nous envoie tous les jours, Baruch HaShem, c'est aussi une confrontation entre ma culture et ma réalité pour voir si j'arrive à réaliser dans ma vie ma culture. Donc, si j'arrive à devenir ce que je suis censé être. Or, le lien, regardez bien, entre la question et la réponse, l'épreuve et la solution, le problème et sa résolution, c'est la joie. Le choc électrique de la rencontre entre deux éléments complémentaires, ça s'appelle la joie. Exactement pareil qu'un type qui a un poste, mais qui est sur une île déserte. Il s'angoisse. Il branche son poste dans la plage, partout où il peut. Là où il trouve un trou, il n'arrive pas. Il y a celui qui a plein de prises. Il est dans une centrale électrique. Il n'a pas de poste. Alors, de temps en temps, il met les doigts dans la prise pour chanter. Il fait ce qu'on peut. Et il y a celui qui a le poste et la prise. La joie. Vous me suivez? Super, hein? C'est simple comme définition. Ben, c'est pareil. Il y en a, ils ont tout. Le costard, le sourire, l'appart, le deux pièces, le compte, l'association, la boîte, tout. Ils sont pas mariés. Il manque quelque chose. Il manque la musique. Il manque quelque chose. Non, je suis bien, je suis cool, je suis bien. Non, il manque quelque chose. C'est comme ça. La Gemara dit, quand la dame chez Nonasui, ouais, et nos chalem, tout un homme, tant qu'il n'est pas marié, il n'est pas entier, c'est comme ça. Tu dis, mais si, on se débrouille très bien. Il manque quelque chose. D'après ceux qui viennent au cours depuis quelque temps et qui savent que la femme, elle contient la moitié de la neshama de l'homme. D'accord? Déjà qu'elle elle contient les trois quarts de son découvert. En plus, elle contient la... C'est pas grave, c'est la bracha. Ouais. Donc c'est lui qui a compris que la femme, elle contient de sa moitié de sa neshama. Donc évidemment qu'il n'est pas entier. Or, puisque atteindre la joie, je vous résume puisque vous êtes censé le savoir, c'est donc d'atteindre la complémentaire de mon besoin. Or, qu'est-ce que c'est la neshama? C'est un compresseur de désir d'être qui développe à chaque instant des milliards de volontés d'exister. Et le monde qui est devant moi, il est censé contenir les éléments qui vont me permettre de combler ce désir d'être. Donc, quand moi je crée le lien entre mon désir d'être et la réponse qui est contenue dans ma réalité, j'ai la joie. C'est pour ça que la Gemara dans Sanhedrin, elle dit « Adam le'amal yulad ». L'homme, il est né pour bosser. Un homme n'a pas le droit de glander, interdit. Tu veux pas rester? Il y a des gens comme ça. On appelle ça des contemplateurs. C'est des gens qui contemplent le temps, l'histoire, la vie, le marais. Moi, je dirais le marécage. Ouais. On n'a pas le temps. Qui c'est qui a le temps, même de réfléchir, je vais vous dire mieux. Qui c'est qui a le temps de réfléchir? On n'a pas le temps. Tu dis, mais il faut bien réfléchir. Oui, il faut apprendre à réfléchir bien. Après, il faut apprendre à réfléchir vite et bien. Et après, il faut agir. Mais vite, hein. Vite fait. Tu me dis, mais moi, j'ai jamais eu l'occasion de réfléchir. Parce que pédagogiquement, philosophiquement, M6, c'est pas ça. Ouais, c'est bien, t'as raison. Tu commences à comprendre. C'est facile de devenir un imbécile, mais d'être indépendant au niveau intellectuel, c'est pas évident. Il faut travailler. Et pourtant, la vie, elle commence après. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui croient, le but, c'est d'être intelligent. Et toute leur vie, ils en rêvent. Ils cultivent leur bêtise pour kiffer le moment où ils passent moins l'intelligence. Mais c'est long. Il y a des gens qui ont compris que ils sont intelligents. Ils sont devenus. Mais ils n'agissent pas en fonction de l'intelligence. Alors, ils kiffent leur intelligence, d'accord? Dans la frustration d'avoir à passer à l'acte. Il y a des gens qui ont compris que tout ça, c'est inintéressant. Ce qui est important, c'est de vivre. Mais il faut vivre intelligemment. Donc, il faut dépasser la bêtise, acquérir l'intelligence, et là, tu commences à vivre. Après, pas avant. C'est-à-dire que l'intellect, c'est la plus grande piège à bêtise qu'on ait existé, qu'on ait créé. Pourtant, tu dis, c'est pas possible, enfin, il est intelligent. Oui, mais si l'intellect, c'est synonyme de laxisme, d'immobilisme, ce que toi, t'appelles la réflexion, ah, c'est dangereux. Parce qu'en fin de compte, ta vie, tu l'as jamais vécue. Tu l'as virtualisée. Si tu réfléchis pas, t'es instinctif. Si t'es instinctif, t'es bestial. Si tu réfléchis, t'as un risque. C'est que tu t'installes dans la réflexion. Donc au lieu de vivre la réalité, tu vis ton rêve. Ah, tu dis, mais alors, s'il faut faire, faut réfléchir et agir. Pourquoi agir? C'est très simple. Parce que tant que ton être intérieur n'a pas rencontré la réalité extérieure. Donc il n'y a pas de lien de complémentarité entre la question et la réponse, entre le besoin et le moyen. Donc il n'y a pas la joie. Alors qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Un homme, il doit être producteur, agissant, sans arrêt, Adam le Amal Yulad. T'as vu les sadikim comment ils courent? Ils se lèvent à 6h du matin, ils s'arrêtent jusqu'à minuit, ils s'arrêtent pas, ils bossent comme des malades. Et t'as quel téléphone, il y a le truc, il y a la gmara, il y a le truc. Jamais tu dis, oh, prends ton temps. Pourquoi tu veux mourir en bonne santé? Quel intérêt? Ouais, tu bosses. Pourquoi tu bosses? Vous savez pourquoi tu bosses? Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Imaginez, vous savez, vous jouez au tennis avec un truc qui envoie des balles, là. Un truc, un canon à balles. Il envoie une balle, tu tapes. Une deuxième, il tape. Imagine, il envoie 100 balles. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te déprimes. Maintenant, tu tapes. Tu tapes. C'est pareil. La vie, c'est une chaîne. Elle s'adresse à toi, il y a un relais. Donc la vie, elle se fait à toi. Attends, tu fais deux. D'où vient le relais? L'Anishama. L'Anishama, elle dit existe. Et Akadosh Baruch Hu, il crée des situations qui contiennent tout sauf ton intervention. Donc le monde entier, c'est un grand panneau, il y a écrit à toi. L'Anishama, elle te dit existe. Toi, tu es au milieu, tu dois faire le relais normalement. Tu dois regarder bien, tu dois prendre l'impulsion de l'Anishama et la réaliser dans le monde réel. Mais étant donné que ton âme, elle produit des impulsions sans arrêt, donc pour pouvoir être à la hauteur de la gestion des impulsions, il faut que tu sois hyper producteur. Donc la Gemara, elle a dit, Adam, l'Eramal, Yulad, l'homme, il est créé pour travailler. Il faut travailler, il ne faut pas s'arrêter. C'est quoi l'Eramal? C'est gérer toutes les propositions qui viennent de l'Eshama. Et l'Eshama, elle ne s'arrête jamais. Ça s'appelle la vie. Ça va pas s'arrêter, non? Vous me suivez? Donc, si c'est comme ça, regardez bien, on a tout compris maintenant. Si moi, j'ai trois possibilités. Soit je prends l'impulsion, je la gère. Donc, lien entre la demande et la réponse. Entre le besoin et la solution. Joie. Entité. Soit je la gère pas. Parce que soit, par exemple, j'ai un complexe, ou j'ai un mal-être, ou j'ai un manque de respect de moi-même, ou j'ai un manque d'affirmation, ce que tu veux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a cumul des désirs d'être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comment on appelle ça en français ? Frustration. D'accord ? Et comme j'arrive pas à le réaliser, j'ai quand même envie de le faire, mais que j'arrive pas, qu'est-ce que je fais ? Je joue un rôle. Je virtualise la réalisation. Mais c'est pas moi. Donc, la face externe ne correspond pas aux besoins internes. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment ? Explosion. Puisque la compression continue, donc la frustration s'implante et le rêve s'intensifie. Illusion, 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 désillusion, destruction. Donc la joie, c'est de répondre à l'appel de sa neshama dans la réalisation. L'angoisse, c'est de ne pas y répondre. Et si tu vas me dire, mais c'est trop abstrait, je comprends pas. Dis-moi, tu as eu un enfant. Oh, Hachem, tu t'es marié, tu as eu un enfant. Avant le mariage, embêtant, ça met tout à l'envers. Disons après. Et la fin, il se lève la nuit. Il crie. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que tu fais, toi ? Franchement, t'as un enfant qui pleure, qu'est-ce que tu fais ? En plus, c'est même pas la mi-temps. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu le mets dans un placard. Tu mets un bouchon. Tu mets du scotch sur la tête. Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais tu veux tu l'as mangé. C'est toi qui parles comme ça ? Alors, pourquoi tu te nourris pas, toi ? Pourquoi tu nourris pas ton appétit d'existence ? Tu le nourris pas. Ou alors tu lui donnes de l'illusion. T'as compris ? Tu t'appelles Maurice. Eh ben c'est pas grave. Eh ben ouais, c'est Maurice. Eh ben c'est pas grave. Pourquoi tu t'es appelé Willy ? James. Tommy. Tommy. Pourquoi ? Il y a mieux, il y a Touma. Touma. Tu comprends ? Comment tu t'appelles ? Touma. Et toi, Mita. Oh. On va bien ensemble. Donc si j'ai compris qu'en réalité, j'ai un devoir de me mettre au service de moi-même pour pouvoir atteindre la réalisation de mon être, et bien vous verrez que les gens qui ont le souci de donner à leur être les moyens de se réaliser, ils sont toujours joyeux. Toujours joyeux. Attention, quand je dis se réaliser, c'est l'être intérieur. C'est pas l'être extérieur. C'est pas l'être rara. C'est pas le corps. Et pourquoi ? C'est normal. Étant donné que l'appétit est spirituel, donc la nourriture, elle doit être du même genre. Donc si, par exemple, ton corps il t'appelle et toi tu lui donnes à manger, t'as toujours faim. Si ton être rara il t'appelle et toi tu lui donnes à manger, t'as toujours faim. Il y a une seule chose qui peut se rassasier, c'est la prise mâle et la prise femelle. C'est-à-dire la correspondance. Les deux moitiés du même billet. La pièce du bon puzzle. Donc il faut que tu saches qui tu es d'abord, toi. Après que tu définisses au fond dans quel axe tu te réalises. Et ensuite que tu ailles chercher dans la réalité qu'est-ce qui est le complément de ta réalisation. Et là tu vas être toujours dans la joie. Toujours. Mais pour ça, il faut fuir l'immobilisme. Il faut être un producteur perpétuel. Et les gens, ils ne savent pas à quel point. On est d'une lenteur, vous savez, c'est incroyable. Déjà, l'œil, il voit 24 images secondes. D'accord ? Le cerveau, il résonne à la vitesse de la tortue. C'est-à-dire à la vitesse à laquelle nous, on l'utilise. C'est une lenteur abominable. Or, vous savez-vous qu'il y a deux courbes qui se croisent. C'est la courbe du temps et la courbe de l'efficacité. Excusez-moi. La courbe du temps et la courbe de l'action. Donc, on dit, mais de toute façon, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire en un certain temps. Ils appellent ça les incompressibles. C'est vrai, non ? Et pourtant, tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Vous savez pourquoi ? Parce que, expliquez-moi, pourquoi est-ce que un patron mais 4 fois moins de temps pour faire ce que son employé fait. C'est bizarre, hein ? C'est normal. Parce que l'employé, il est payé pour faire une certaine mission. Mais le patron, il est payé pour faire avancer la boîte. Donc il est plus pressé. C'est la loi des gaz. C'est un gaz, il s'étend dans le volume que vous lui donnez. Si vous lui donnez 10 mètres cubes, il prend 10 mètres cubes. 20 mètres cubes, 20 mètres cubes. Donc si quelqu'un, tu lui donnes 10 heures pour faire un truc, il va mettre 10 heures. Tu dis 2 heures, 2 heures. C'est comme ça. Une heure, une heure. Tu dis, mais il y a un moment, c'est plus possible. Le cerveau, il ne peut pas aller plus vite que les mains, le stylo. C'est faux. Pourquoi? Parce que le point de jonction entre l'action et le temps, c'est l'intensité. Quand vous vivez intensément les choses, étant donné que l'intensité, c'est l'expression profonde du désir d'être, or, l'expression profonde du désir d'être n'est pas soumise au temps. Puisque vient de l'Aïchama. Donc, vous n'êtes plus soumis au temps. Donc, vous faites vite. Vous comprenez vite. Vous réagissez vite. Je vais vous dire mieux encore. Vous faites les bons choix. Or, les trois quarts de la perte de temps viennent des mauvais choix. Parce que quand on fait un mauvais choix, c'est pas comme... Genre, tu dis, oh, je me suis trompé. Et non, parce que quand tu t'es sorti de l'autoroute et que tu as fait 200 km, il faut refaire 200 km pour revenir sur l'autoroute. Donc dans la vie, quand on fait des mauvais choix, c'est le pire du mauvais choix, c'est quoi? À part toutes les conséquences, c'est la perte de temps. Aller en retour. Donc celui qui raisonne vite, eh bien, déjà de raisonner bien, c'est un gain de temps. Pas parce qu'il va vite, parce qu'il économise les mauvais choix. Vous allez me dire, oui, mais ça ne sert à rien de raisonner bien et de raisonner vite. Si on ne met pas ce raisonnement au service de la vie. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. L'intelligence, on peut la mettre au service du Yetzer Hara aussi. Même la bonne foi, on peut la mettre au service du Yetzer Hara. Du mauvais penchant pour les communs. Ouais. Même la sincérité, on peut la mettre au service du Yetzer Hara. On peut tout mettre au service du Yetzer Hara. Tout. Pourquoi? Puisque le nefesh, la personnalité, elle est coupée en deux. Donc, la vie, elle est double. Tout ce qui existe en vrai existe en faux. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui existe en cachère existe en taref. Est-ce que vous me suivez? Tout, la même chose, impeccable la même. Extérieur, intérieur, aucun rapport. Est-ce que vous savez un poster d'une plage? Oh, on voit la profondeur de l'horizon, on voit le bleu de la mer, on voit la blancheur du sable, on voit... Oui, mais t'es à Paris 18e, là. Même la brise, on peut la reconstituer. Même l'odeur de la mer. Il suffit que tu lèves le bras. D'accord? On peut tout faire. Bon, ça va. On peut tout faire. Si c'est comme ça, automatiquement, on a compris que cette joie-là, pour l'atteindre, on doit lutter contre l'arrêt. Parce que non seulement que le fait d'être perpétuellement en mouvement, c'est la capacité de donner la réponse à la question qui est posée par la Neshama, donc la complémentaire. Mais en plus de ça, c'est que le mouvement lui-même, c'est ce qui permet d'éviter l'accumulation des toxines. C'est-à-dire que les gens qui s'arrêtent sans s'en rendre compte, c'est pas simplement qu'ils ont pris un temps, c'est qu'ils sont en train d'accumuler des toxines. L'immobilisme, c'est dangereux, parce qu'en même temps, on a dit tout à l'heure, ça développe la frustration, mais ça développe la flemme. Ça développe le manque de confiance en soi. Regardez, n'importe qui, même s'il est bon dans un domaine, s'il arrête pendant un ou deux ans, quand il veut reprendre, il manque de confiance en lui. Comment ça se fait? L'arrêt. Un sportif, il maintient tout le temps les assouplissements. Il maintient l'entraînement. Dans n'importe quel domaine, l'arrêt est néfaste. Sauf dans les Averot. Parce que je vois bien. Ouais. D'accord. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est marqué dans Michelet. Etzel Sade Ish Atzel Avarti. Je suis passé devant le champ d'un paresseux. Et ce champ, il était rempli de mauvaises herbes. Alors, je vous ai déjà dit ce principe, mais il faut se le mettre dans la tête une fois pour toutes. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que pour faire du blé, il faut travailler le champ. Et pour faire des mauvaises herbes, il ne faut pas travailler. Si un champ, c'est une machine à produire, pourquoi pour produire du mal, il ne faut rien faire. Et pour produire le bien, il faut travailler. Ça prouve que le monde, il ne s'est pas fait tout seul. Parce que si le monde il s'est fait tout seul, alors pourquoi le blé il pousse pas tout seul? Et pourquoi les mauvaises herbes elles poussent tout seul? C'est bizarre. Comme un hasard. Alors la règle elle est simple. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut te montrer à travers la nature, si tu n'as pas eu la chance d'étudier l'ésotérique juive, ou la pensée humaine, ou même la petite réflexion du proverbe australien, eh bien au moins t'es passé un jour devant un jardin, et t'as vu un jardin qui n'était pas travaillé, et tu t'es dit, mais c'est marrant, quand on ne travaille pas, il y a des mauvaises herbes. Et à ce moment-là, si tu étais encore un peu plus vivant qu'intelligent, tu t'es dit, donc moi aussi, si je ne me travaille pas, je vais développer des mauvaises herbes. Donc, le non-acte, il est producteur de toxines qui sont néfastes à l'épanouissement. Ça veut dire que plus tu es hésitant, plus tu hésites. C'est incroyable. Vous comprenez ou non? Donc, celui qui croit que la réflexion, si elle n'est pas optimisée, elle va le sauver, en vérité, elle va développer son manque de confiance en lui. Et après, il s'enterre. Donc la Torah, elle te dit, agis pour répondre à la question, et en même temps, le fait même d'agir, ça évite l'accumulation des toxines. C'est pour ça que je vous avais donné l'exemple, à l'époque, du taxi. Vous vous rappelez du taxi, non ? Pourquoi les taxis font 1,5 million de kilomètres avec leur voiture ? Et pourquoi nous, on fait 200 000 ? Parce que leur voiture s'arrête moins souvent. Or, comment un moteur, il se détruit ? Parce que le gras qui est dans le moteur, il se dépose sur les parois et le piston, il se déforme à cause de la déformation de la cage du piston. Mais si le gras il est toujours en mouvement à l'intérieur de l'huile, bien qu'il y a du gras, mais comme il ne s'est pas déposé, donc il ne déforme pas le piston. Donc lui fait 1,000,000 de kilomètres et toi tu fais 200 000 kilomètres. De la même manière, la vie, qu'on le veuille ou non, elle nous confronte avec des chocs émotionnels. Le choc émotionnel, il crée une toxine. Maintenant, ou tu vis avec la toxine ou tu t'arrêtes sur la toxine. La Torah te dit, fais gaffe, si tu t'arrêtes sur la toxine, elle va te fossiliser. T'as un problème? C'est bon, c'est vrai, t'as un problème. Eh ben, c'est pas grave, continue à rouler. Il y a des gens, j'ai un problème. J'ai un problème, ça fait 10 ans que j'ai un problème. Ça fait 15 ans que j'ai un problème. Quand les gens ils me disent ce genre de choses, je leur demande toujours depuis quand? Parce que je calcule à peu près la fossilisation du problème. Il y a des gens qui ont été figés comme ça dans l'espace. En pleine course. D'accord? Solidifiés. Congelés. En pleine course. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle un arrêt sur image. T'as un problème? D'accord, d'accord. Oh, d'accord. Alors vas-y, prends-le avec toi, avance. Et au fur et à mesure, tu te nettoies. L'autre, il dit, non, j'ai un problème. Alors pendant des années, j'ai cru que les gens avaient des problèmes. Mais j'étais nia à l'époque. Après, j'ai compris qu'un problème qui dure est un problème entretenu. Comme toutes les bonnes sociétés, comme tout ce qui existe dans le monde, pour perdurer, il faut entretenir. Donc si le bien entretenu continue, eh bien imaginez que le mal entretenu, il dure. Alors quand je me suis rendu compte que le fait d'amener des solutions aux gens, ça ne leur servait à rien, puisque c'est le malheur qui les intéresse, c'est pas le bonheur. Et si quelqu'un va dire, mais non, mais enfin c'est défaitiste ce que vous dites. Ben, écoutez, il faut être réaliste. Si vous donnez tout pour que quelqu'un s'en sorte et qu'il vous dit non, j'y arriverai jamais, ça veut dire qu'il est plus intéressé à cultiver sa douleur qu'à assumer le bonheur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que assumer le bonheur, c'est reprendre la guerre. C'est la vie, c'est la guerre de la vie. Vous comprenez que la vie, c'est une guerre. Oui. Il faut être souriant, il faut être ouvert, il faut être équilibré, il faut être sympa, il faut être efficace, il faut être bon, il faut être entier. C'est dur la vie. Alors que la nullité, quelle tranquillité. C'est faux. Tu t'assois dans ton fauteuil. Bah, je suis naze, bah, je suis nul. Ou alors il y a mieux encore. Il y a le redistributeur d'étiquettes. Il s'assoit dans le fauteuil. Toi t'es nul, toi t'es bignon, toi t'es naze. La vie est dure, c'est pas évident, c'est pas truc. Mais le temps que t'as pris à justifier ta douleur, t'aurais pu l'occuper à développer ton bonheur. C'est la même chose. Il faut autant de force pour sortir d'un problème que pour rester dedans. Alors pourquoi t'as choisi de rester ? Le confort. C'est incroyable. Les gens ils vont dire, mais comment vous pouvez parler comme ça ? Il y a des gens qui ont été touchés par des traumatismes. Écoute-toi bien, qu'est-ce que tu veux maintenant ? Tu veux qu'on s'assoie et on pleure ? Tu veux qu'on s'en sorte ? Voilà. Maintenant, quel est ton problème ? Ah, je voudrais t'envoyer un problème. Voilà. Ce problème, il est adapté. T'as pas l'impression qu'il est adapté ? Problème de culture. Faut apprendre. Tu es sûr qu'il n'est pas adapté ? Donc tu penses que Dieu, il veut rien t'écraser, quoi. Dieu, il veut que tu évolues. Il veut que tu avances. Mais pour que tu avances, il faut que tu sautes. Et pour sauter, il faut une barre. Alors il y a des gens, ils ne supportent pas les barres. Ils voient une barre, ils disent « Oh, ça y est, ça recommence les examens, ça y est, ça recommence. » Eux, ce qu'ils voudraient, c'est un club de sport, genre les Jeux Olympiques. Tout le monde s'assoit par terre. Et l'autre, il lui dit « Tu crois que tu peux sauter 2 mètres ?» L'autre, il dit « Ouais, je crois. » Et toi ? Moi, je crois plus. Alors, on va donner la médaille à celui qui se la joue le plus. Recordman du monde de l'autosuffisance. Non ? On met une barre et béchabod ! Tu sautes, c'est bien. Tu sautes, c'est bien. Tu sautes pas, l'année prochaine. C'est pas grave. Quand t'as sauté, regardez bien, t'avais peur pour 1m50. Mais je te signale que pour sauter une barre d'1m50, en vérité, il faut sauter au moins 1m60. Donc toi, t'avais peur d'1m50 parce que tu pensais sauter 80 cm. En vérité, tu sautes le double. Vous voyez au moment où il passe la barre et il sent qu'il n'a pas touché ? Vous voyez ce qu'il rentre à l'acte, c'est ce qui vient là. Qu'est-ce qui vient ? Il vient qu'il a compris qu'il est capable de ce dont il rêve. Donc il a fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Mais s'il regarde l'épreuve, il dit j'arrivais pas, je pouvais pas, c'est trop, c'est pas possible. Après il commence à intellectualiser son problème. Après il commence à créer un cahier des justificatifs. Je ne veux pas à cause. Et il y a des gens qui te font un justificatif, mais une cathédrale de justificatifs. Ouais. Tu dis, mais le temps que tu as passé à faire ton anti-sèche, tu aurais pu apprendre le programme. Parce que qu'est-ce que c'est une anti-sèche ? Une anti-sèche, c'est ce qu'on appelle une assurance artificielle. C'est-à-dire quoi ? Tu es convaincu que ce que tu as dans la tête, tu vas l'oublier, mais ce qui est sur le papier, tu ne l'oublieras pas. C'est complètement idiot. Alors, ce que tu peux faire, c'est faire ce qu'on appelle une anti-sèche blanche. Tu apprends ton cours et tu fais une anti-sèche que tu ne sors pas. Donc, tu as gagné l'assurance. Tu dis, de toute façon, si je veux, je regarde. Mais je n'ai pas besoin parce que je connais. Ça s'appelle une anti-sèche blanche. Le fait de se confronter à une épreuve et de refuser l'épreuve, à part le fait que tu rates quelque chose, c'est surtout le fait que tu cumules des toxines. Je suis incapable, j'y arriverai pas. Pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Mais c'est des faux problèmes, ça. C'est si quelqu'un voyait ta tête à ce moment-là, un type qui a la pêche, tout de suite tu lui dis, allez, perds pas ton temps, avance. Ça te concerne, c'est pour ça. Allez, vas-y, avance. C'est pas pour toi. Or, il faut savoir une chose, la vie, c'est une confrontation perpétuelle avec des chocs émotionnels. Les chocs émotionnels créent des toxines. Les toxines, ou tu les gères, ou tu les balades, ou tu les détruis. Mais si tu les conserves, tu les regardes, tu les contemples, tu en fais des expositions, t'es mort. La mort, c'est le temps de la contemplation. La vie, c'est le temps de l'action. Allez, décide, t'es vivant ou t'es mort ? Celui qui a décidé de s'arrêter, ça veut dire qu'il veut la mort vivant. La Torah dit bouge. Hop, on y va. C'est pas évident. Prépare-toi. Il y a des chocs. Apprends, comme ça tu fais. Et les surfeurs. Il faut. Oh, tu vois le problème arriver. Ou t'assumes, ou tu surfes. Débrouille-toi, mais avance. Tu prends. Tu régleras plus tard. Avance. T'as pris un coup, c'est pas grave, on continue à avancer. T'as bien joué au rugby tous les coups qu'il prend avant la fin de la partie. Imagine le premier coup, il fait oh, c'est violent. Il y a des gens comme ça. Ils savent qu'il y a une partie, elle dure 120 ans. Ils savent qu'il y a des coups. Tout le monde sait qu'il y a des coups. Qui c'est qui croit que la vie c'est Walt Disney ? Franchement, il y en a qui croient que la vie c'est Walt Disney. Il y en a qui croient. Alors, et si vous me dites, mais enfin tout le monde sait que la vie c'est pas Walt Disney. Ah bon ? Alors pourquoi ils sont tellement choqués en voyant que c'est pas Walt Disney ? Pourquoi ils s'affolent? Pourquoi ils crisent les gens? Parce qu'ils sont déçus. Pourquoi ils sont déçus? Parce qu'ils rêvent. Celui qui rêve n'est jamais déçu. Celui qui rêve pas, je veux dire. Il n'est jamais déçu. Celui qui voit la réalité, eh ben voilà, la réalité c'est comme ça, ben, c'est pas évident. Quand tu rentres dans un système où tu gagnes ou tu perds, l'autre il dit, pourquoi j'ai perdu? Quand tu es rentré, je t'ai dit où tu gagnes ou tu perds. Quand tu vas à un examen, où tu vas l'avoir ou tu vas le rater. Quand tu rentres contre quelqu'un où ça va marcher ou ça n'a pas marché. Pourquoi tu dis, ça n'a pas marché? Mais tu, en rentrant, tu savais bien, il y avait une chanson d'eux. Oui. En plus, tu n'es pas déterminant, tu n'es pas Dieu, tu vas dire, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Non. Tu es un participant, tu es un partenaire, tu viens. Oui, non, ça dépend, ou de toi, ou de l'autre. L'autre, il dit non. Ah ben, il dit non. Tu dis, pourquoi il dit non? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis mal? Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi je suis pas un mec sympa? Ah bien, par ça, imagine-toi. T'es bien, t'as un catalogue de folie. Hein. Je regarde ton truc, ta fiche technique. T'es bien. Pas un petit problème de voltage. C'était pas adapté, mais on va trouver un adaptateur. Donc, le mouvement perpétuel. C'est le secret du mouvement perpétuel. La lutte contre les toxines, donc la lutte contre l'angoisse, donc la lutte contre l'immobilisme. Je suis perpétuellement en mouvement de production. Parce que celui qui est en phase de production, il n'a pas le temps de s'angoisser. Regardez, je vous donne un exemple idiot. Tu es en train de bosser, d'accord? En plein boulot. Et tu produis, tu es vraiment en plein boulot. Et il y a un type qui vient et tu dis, tu te rends compte que à Jakarta, il y a un enfant qui est en train de mourir. C'est vrai. Maintenant, tout de suite, on est en train de parler. Il y a un enfant qui est en train de mourir à Jakarta. Maintenant, t'es pas insensible, t'es pas méchant, t'es pas un pourri, mais tu dis, ouais, c'est vrai, excuse-moi, mais je travaille. Tu vois? Alors, explique-moi pourquoi, quand t'es en plein boulot, en pleine vie, en plein épanouissement, et à l'intérieur de toi, il y a une voix qui te dit, mais tu es un petit enfant de Jakarta. Pourquoi tu t'arrêtes? Je me dis, oui, mais là, c'est mon problème, je suis obligé de m'arrêter. Mais qui a dit que tu as le droit de t'arrêter pour toi? Je dis, mais enfin, mais si je suis pas sensible à mon problème, pourquoi j'existe? C'est ça l'erreur, mon frère. C'est ça l'erreur. Toi, tu es là. Regarde, il y a ce que tu es, il y a ton devenir. Par respect pour ton devenir, tu ne dois pas accepter les obstacles de ton être. Par respect pour ton devenir. Comme dans un couple. Il y a même la femme. Le présent, il n'est pas tellement intéressant des fois. Mais le futur, il est beau. C'est le projet du couple. Maintenant, pour le projet du couple, nous allons annuler nos intérêts personnels. Et en annulant l'intérêt personnel, on arrive à l'amour commun, puisqu'on a détruit l'amour propre. Mais le projet, il est virtuel. Eh bien, c'est pas grave. On va tendre vers un virtuel pour dépasser notre réalité mesquine. Donc le rêve, quand il joue le rôle de l'ambition, il devient moteur de l'évolution. Mais si tu t'arrêtes sur la réalité, tu dis oui mais j'ai mal, oui mais ça va pas, oui mais il m'a mal parlé, il m'a pas respecté. Si tu regardes le projet, tu vas lui dire mais est-ce que je suis respectable? Si tu regardes ta personne, tu dis mais pourquoi il ne me respecte pas? Mouvement, arrêt. Mouvement, arrêt. Ambition, synonyme, mouvement. Mouvement, synonyme, rejet de l'obstacle. Une voiture qui roule doucement, tu peux l'arrêter avec la main. Une voiture qui roule vite, tu peux pas l'arrêter avec la main. Donc le mouvement, automatiquement, il minimise l'obstacle. Alors pourquoi t'es arrêté par tous les obstacles? Parce que tu roules doucement. Donc la Torah te dit, avance. Donc le fait d'avancer déjà, ça minimise les obstacles. Deuxième façon de minimiser les obstacles, relativiser les choses. Relativise. T'as un problème. Bon, d'accord, j'ai un problème. J'ai un problème, j'ai réellement un pérobelème. Il y a des gens, s'ils pouvaient prononcer le P pendant une demi-heure. J'ai un problème. Tu dis, ça va pas? Ils veulent même pas le dire. Vous savez pourquoi ils veulent pas le dire? Parce qu'ils savent que s'ils commencent à parler, ils vont être obligés de s'arrêter. Par correction. Au moins une semaine. Et quand ils vont s'arrêter de parler, ils vont définir. Ils vont délimiter. Mais eux, ils veulent pas délimiter leurs problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que, à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure, La fin du problème, c'est le début de la solution. Mais eux, la solution ne les intéresse pas, parce qu'ils veulent le problème. Donc ils ne vont pas exprimer le problème, parce qu'ils savent que l'expression du problème, c'est déjà la moitié de la solution. Et ils ont peur de la solution. Alors ils n'expriment pas le problème. Comment tu vas faire? Tu conserves le problème. Mais le problème, quand il est conservé à l'intérieur, il prend des proportions effroyables. Puisque l'émotionnel, en agissant sur le problème, il hypertrophie. C'est pour ça que la Torah te dit, parle de ton problème, écris ton problème, exprime ton problème. La Gemara dit, dibou khadsi anacha. Nechama. D'accord? La Gemara dit, la parole, c'est la moitié de la consolation. Toujours les gens, ils se demandent, comment ça se fait que quand on parle de son problème, ça va mieux après? Mais c'est normal, regardez bien. Il est devenu extérieur, puisque tu l'as mis dehors. Deuxièmement, quand on a un problème là, on ne connaît pas sa taille. Mais quand il est là, on connaît la taille. Donc on ne peut synthétiser que quelque chose qu'on a exprimé. Et si on le synthétise, on le délimite. Si on le délimite, il est déjà à moitié réglé. Vous allez me dire, mais on a du mal à exprimer. Alors en attendant d'exprimer, comment on fait? Comment on fait? On relativise. Comment on relativise? Relatif, ça veut dire référence. Choisis des références. C'est pour ça qu'on va dire à quelqu'un, ouais, mais tu sais, il y a pire. Alors j'en dis, c'est malade de ça. Moi j'ai mal, donc il y a pire. Tu t'es écorché le doigt? Bon, mais il y en a qui se sont fait. Qui ont mangé une scie sauteuse. Waouh! Ça fait mal. Je crois qu'elle est restée branchée.
Non.
Si. Ouais, ça fait mal. C'est relatif. Tu dis, mais ça sert à rien de relativiser. Ça fait pas moins mal. Bien sûr que ça fait moins mal. Tu sais pourquoi? Parce que si on comprend que le plus difficile, c'est d'assumer son problème. Et vous savez pourquoi c'est difficile? Parce que c'est pas son problème. Mais si c'est ton problème, celui que tu connais, celui qui existe, tu vas le gérer. Rappelez-vous de ce proverbe. Quand tu vois un géant, regarde toujours si c'est pas l'ombre d'un pygmée. Mais c'est pas géant. C'est très important. Si c'est pareil. Je vous ai donné cet exemple, mais combien de fois les gens m'ont dit, mais en fait j'avais la tête. J'ai dit, c'est une question de référence. Je dis, moi, ma référence, c'est Auschwitz. Et vous, votre référence, c'est Miami. Donc, pour moi, tout ce qui est mieux qu'Auschwitz, je suis heureux. Mais vous, la référence, c'est Miami. Donc, tout ce qui est moins bien que Miami, c'est la mort. Alors, la Courneuve, je te parle pas. Vous comprenez? Une fois, j'ai dit à des gens, mais allez à Villejuif, allez chez les cancéreux là-bas, allez voir les types avec les tubes. Toute la journée. Il faut voir ça. Vous allez me dire, mais c'est angoissant. Mais non, parce que quand toi, tu te lèves le matin et tu respires, dis merci. Regarde, tu fais... Mais dis merci. T'as tout ce qu'il faut comme plaquette. Dis merci. Les globules blancs, il n'y en a pas trop. Razak. L'oxygène, il se redistribue dans le sang. Baruch HaShem. Tu vois des deux yeux? Ouais. Les deux oreilles, ça marche aussi? Baruch HaShem. T'as une jambe plus longue? Non. Les mains, elles fonctionnent? Ouais. T'as pas perdu une main au patinage? Non. Baruch HaShem. Comprenez ou non? Vous allez me dire, mais c'est débile. Puisque ce que j'ai, je l'ai. Ce qui m'angoisse, c'est ce que j'ai pas. Mais pour connaître la taille de ce que t'as pas, il faut savoir ce que t'as. C'est l'éternel problème. Est-ce que vous me suivez là? Quand tu veux savoir ton manque, tu définis la richesse ou la pauvreté? Regarde ce que t'as. Regarde ce que t'as. Après, tu verras ce qui te manque. C'est comme les enfants. Ouais, j'ai rien. Il a tout, il lui manque un ballon. Ouais, j'ai rien, j'en ai marre, je suis malheureux. Mes parents m'aiment pas. Mais je vous signale qu'à 40 ans, c'est pareil. Hein. Il a tout. Il a un travail, il a la santé, il a une femme, il a des enfants, il a tout. Il dit, ouais, mais cette année, je pourrais partir que 3 fois en vacances. Je suis mal. Il n'a pas changé. 33 ans après, c'est le même mec. Sauf que au lieu de crier sur les parents, il crie sur la vie. Et si le religieux, il crie sur Dieu. Mais arrête de te plaindre, tu nous fatigues. Tu prends une référence, une bonne référence. Regarde, Auschwitz, c'est bon. Parce qu'en dessous, c'est bon. Prends une tumeur, en dessous, c'est bon. Tout est bon. Vous comprenez ou non? Tout est bon. Combien de fois des mecs sont venus? Oh, j'en peux plus. Oh, je dis, tu veux que je prie pour que tu meurs? Non, mais c'est vrai, je vais tout lâcher. Je vais tout lâcher. Il y en a des, tu dis, viens, on va essayer ça. Non, ça. Non, c'est pas possible, j'arriverai pas à ce truc. Vous savez pas dans quel état je suis entouré de mauvais, je suis écrasé. Je vais prier pour que tu meurs. Non, ça bouge pas. Ah, ça, non, ça va mieux. Oh, je... Ils sont malades. C'est marqué dans un passou. Ma it onen Adam chai. De quoi il se plaint un homme vivant? T'es vivant, dis merci. Oh, dis merci! Tu dis, mais ça c'est normal. Il n'y a rien de normal. Le monde entier, il est rempli de gens qui n'ont pas la normalité. Tu manges tous les jours? Bah ouais, bah dis merci, bah ouais, ça va. Y'a rien. Ah, tu dis, mais non, tu vas me dire, ouais, mais alors, en ce cas-là, alors, il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus rien. T'as pas compris? Quand toi, t'as un problème, quand tu le relativises, ça veut pas dire que maintenant, tu vas vivre avec une angoisse, les barbelés, les miradors. Non. C'est que ça va te servir à donner la taille de ton problème. Tu sais pas. C'est quoi ce truc-là, un glaçon ou un iceberg? Je sais pas. Ça peut porter à conséquence. Mais si tu regardes comme ça, c'est un iceberg. Et automatiquement, petite panique. Non, c'est pas grave. Ouais. Au contraire, si tu regardes comme ça, c'est un glaçon. Tu t'affoles pas. Qu'est-ce que ça fait? T'as relativisé. Compare-le. Ouais. C'est pour vous montrer quelque chose de gigantesque, on met un homme à côté. C'est vrai? Et bien, pour comprendre ta douleur, mets quelque chose de grand à côté. Alors tu dis, ouais, mais alors à ce moment-là, tout est dérisoire. C'est pas dérisoire, ça a pris sa bonne taille. Maintenant, tu as la taille du problème. Or, le principal échec à la réponse à ton problème, c'est le fait que tu avais hypertrophié ton problème. Donc maintenant que tu l'as relativisé, il a sa vraie taille. Maintenant qu'il a sa vraie taille, tu dis, bon, c'est rien du tout. Tu veux la preuve? C'est que quand quelqu'un d'autre a exactement le même problème que toi, tu le règles en 2 secondes. Alors pourquoi quand tu as le même problème, tu n'arrives pas à le régler? C'est facile. Parce que l'acide de la sensibilité hypertrophie ton problème, dilue. Mais que tu le veuilles ou non, même si tu es un grand Baal Hesed et tu aimes le peuple d'Israël dans son entier, mais le problème de l'autre, il est quand même toujours moins important que le tien. Quand tu pinces quelqu'un, c'est quand même lui qui a mal. Bah, c'est la nature. D'accord? Donc, quand c'est un problème de l'autre, tu arrives à raisonner parce que tu n'es pas. Tu n'as pas ton l'hypertrophie de la sensibilité. Alors. Donc, si tu veux arriver à régler ton problème, il faut se désolidariser de ton problème. Ça s'appelle la projection. C'est où tu te regardes, mais regarde-toi vivre. T'arrives pas à le faire, dis-le. T'arrives pas à le dire, écris-le. Écris ton problème. Écris-le. Combien de fois j'ai eu des gens? Combien tu veux? 3 pages, 4 pages, 10 pages? 4 lignes en moyenne. 4 lignes, les graves problèmes. 4 lignes. Alors pour 4 lignes, tu es en train de me saouler depuis 1 heure. Vous comprenez? 4 lignes! 9 mots! 9 mots! 2 conjonctions! 2 conjonctions, 2 verbes, 2 verbes, 2 actes. 2 actes, 2 implications. 2 causes, 1 sujet. Pour 1 sujet et 2 causes, tu nous as saoulés. Le sujet, c'est toi. On enlève. Qu'est-ce qui reste? 2 causes. Les 2 causes, souvent, elles se superposent. Et même si elles ne se superposent pas, elles ont un ordre de priorité. Sans compter le fait que c'est possible que dans les 2, il y en a peut-être 1 ou 2 fausses. Alors pourquoi tu nous saoules? Vous comprenez ça? T'as un problème? Synthétise, mon frère. Distance, 1 feuille, tu marques. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien de pôles? Combien? 8, 9, 10 maximum. C'est très rare les gens qui ont plus de 10 pôles en même temps. D'accord? C'est très rare, très très rare. Alors t'as 10 pôles, eh bien c'est pas grave. Alors tu vas dire d'abord, vrai problème, faux problème. Vas-y, coche. Tu dis, oh, oui, mais regarde ça. Ah oui, c'est vrai. Tac. Après tu dis, problème qui vient de toi, problème qui vient de l'extérieur. Ah, problème qui vient de toi, tu peux les gérer tout à l'heure. Alors, de l'extérieur, tu vas les gérer tout de suite. D'accord. Dans les problèmes qui viennent de l'extérieur, il faut créer un ordre de priorité. Ceux qui te concernent tout de suite. Tu vas pas t'angoisser avec les trucs qui viendront demain. Ah, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Ouais. Après, dans l'ordre de priorité, ben, est-ce que tu peux gérer tout de suite, maintenant? T'as la solution ou non? Ah, tu dis, ben, si je le regarde tout seul, ouais, évidemment que j'ai la solution. Donc d'où il vient le problème? De l'amalgame. Alors explique-moi, mais pourquoi t'as fait amalgame? Vous comprenez ou non? Par exemple, un matin il se dit, oh, j'ai claqué la porte, j'ai laissé la porte, la clé dedans. Oh mince, j'ai laissé la clé dedans. Oh mince, bon, je vais appeler un serrurier. Tu vois? J'ai laissé la clé dedans, je vais appeler un serrurier. Ça va? Mais si je me suis duché avec ma femme, d'accord? J'ai laissé la clé dedans. Je descends, on m'a volé ma voiture. En sortant, j'accroche, je déchire mon costard que j'ai acheté la veille. D'accord? Après, je regarde, j'ai pas mon chéquier. Où je l'ai mis? Au restaurant hier soir. Alors là, je commence à péter les plombs. D'accord? Alors, je fais ah! C'est le cri de l'amalgame. Mais si tu sais pas, tu dis attends, prends une feuille, s'il te plaît. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La preuve, c'est que si tu avais ces 10 problèmes-là, un après l'autre, un jour, un par jour, tu les aurais réglés. Parce que les 3/4 d'entre nous, on a au moins un problème par jour. Sinon, c'est que tu bouffes ton lavabo, de toute façon, on peut choisir. Hein. D'accord? Donc, en moyenne, on a un petit problème par jour. Donc, si on a un problème par jour, on règle tous les jours. C'est la vie. Ah, il y a un amalgame. Mais de qui dépend l'amalgame? De toi. Alors, t'as qu'à pas faire un amalgame. Tu dis, mais je peux pas, je suis pris par les problèmes. Mais qui t'oblige? Comprenez? Même si tu dis au monde stop, qui t'empêche? Rien. Eh ben, fais-le. Ça s'appelle, tu te désolidarises de ton problème. Tu dis, mais c'est mon problème, je ne peux pas m'en désolidariser. Si, tu vas le faire, tu vas te faire violence, tu vas te désolidariser. Donc, il y a ton problème, c'est vrai. Tu dis, j'ai un problème, mais il est là. Après, tu dis, il y a un problème, et je suis là. C'est plus, j'ai un problème. Le problème, il est là. Moi, je suis là. Et je regarde le problème. Combien de fois, des gens me disent, mais comment vous arrivez au téléphone, dans la rue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 cas. Je fais, mais moi, c'est comme des cas de Guémara. C'est un cas de Guémara. Vous croyez que chaque fois que je dis un cas de Guémara, je me rends malade? Oh, le taureau, il a encore. Un taureau que j'ai eu depuis que je suis petit. Je l'ai adoré. Le taureau de ma mère. Pas mon père. D'accord? C'est pas possible. Tu dis, c'est un cas. Tu dis, mais alors c'est insensible. Mais non, c'est pas insensible. Sinon, tu peux plus faire rien. Comment? Oh, t'es là. Ouais, alors, elle m'a trompé. Ah bon, on va trouver ce jeu. C'est mon frère, il m'a touché. Ah bon, d'accord, on va trouver ce jeu. Il y avait du mariage, il est parti. On va trouver ce jeu. Si tu commences à pleurer avec le premier, qu'est-ce que tu fais avec les autres? C'est pas un double appel qu'il faut, c'est une boîte de Kleenex. Bah, c'est vrai. Ce qui est marqué ici. Dis donc, quelqu'un, à partir du moment où il a compris qu'il faut le relativiser, qu'il faut créer le mouvement et qu'il faut perpétuellement développer la recherche de la solution. C'est-à-dire que, on a dit, là, si moi je me suis désespéré du malheur, pas du bonheur, je dis le malheur, je n'y crois plus. J'y crois plus. Vraiment, j'y arrive pas, j'ai beau faire, je ne suis pas malheureux. Je me suis désespéré du malheur. Vous comprenez ça? Et que moi j'ai un projet, et ce projet-là, je ne vais pas le régler tout de suite, parce que la vie, ce n'est pas de la consommation de haute distribution. C'est devenir. Donc petit à petit, j'atteins quelque chose. Et que j'ai créé une motricité au niveau du non-arrêt. Et que je lutte perpétuellement contre les toxines qui s'accumulent. Et que j'avance vers un certain projet. Alors, la dynamique, regardez bien, du projet moyen. Résultat, parce qu'il y a les résultats à court terme et les résultats à long terme. Donc, la dynamique perpétuelle du « j'ai un projet, je me donne les moyens, j'obtiens un résultat ». Le fait d'obtenir un résultat, j'ai question, réponse, joie. Donc, énergie, je conforte le projet, je trouve les moyens, résultat, énergie. Vous voyez ça? Ça s'appelle le mouvement perpétuel. C'est ça la joie. Perpétuellement, je reste dans un cycle de... Non, vous n'oubliez pas. Je reste dans un cycle de but, moyen, résultat. Où c'est marqué ça dans la Gemara? C'est marqué En Yetzerara Cholet Elabemi Sheinu Lesimcha. Le Yetzerara ne peut s'attaquer que à celui qui n'est pas dans la joie. Veami Shelibo Panoui est celui qui a le cœur vide. C'est un type, il pense à rien, il fait rien, il est comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je fais pousser mes ongles. Il y a des gens comme ça. Ils disent, tu te rends compte que les ongles ça pousse? C'est extraordinaire! Mais regarde, regarde! Si tu restes bien, franchement, tu regardes. Pendant une, deux, trois journées, tu vas voir les ongles pousser. Et tu dis, t'as vraiment rien à faire de ta vie. Attendez, je vous signale qu'il y en a un qui attend 11 mois pour aller en vacances. Hein. Donc ils n'ont vraiment rien à faire dans leur vie. Hein. Si c'est vraiment le but, c'est les vacances. Ben vas-y. Ils disent, enfin, faut bien travailler. Enfin, je... Dis-moi, cette philosophie, elle profite à qui? À toi ou au patron? Réfléchis. Oui. Ici, c'est marqué que à partir du moment où tu es dans la... tu n'es pas dans la joie, ou tu es libre au panneau, tu es vide, automatiquement, le Yetzara, il vient. D'après ce qu'on a dit, et d'après ce qu'on a déjà dit dans les autres cours, vous devez très, très bien comprendre. On a dit, il y a l'être intérieur, la Neshama, elle donne une impulsion d'être, qui passe par le Nefesh, la personnalité, qui est divisée en deux, Yetzera et Yetzera Tov. Si toi, tu prends l'impulsion qui vient de la Neshama, tu mets ton projet personnel et tu le réalises dans le monde extérieur, tu as fait le cycle extérieur-intérieur, tu as comblé le manque, joie. Mais, si tu n'as rien dans la tête, pas de projet, mais il y a une accumulation d'énergie. Le Yetzer Hara, il crée ce qu'on appelle le confort existentiel. C'est nouveau, ça vient de sortir. J'ai trouvé ça samedi soir. Profitez-en, ça peut aider. Le confort existentiel. Vous savez ce que c'est le confort existentiel? Étant donné que c'est très dur d'exister, c'est très dur de se réaliser, le Yetzer Hara te propose d'exister à ta place. Tu n'as plus besoin de prendre des décisions. Tu n'as plus besoin de t'orienter. Tu n'as plus besoin de te confronter avec la réalité. Moi, j'existe à ta place. Donc toi, tu t'installes dans un cocon, d'ailleurs. Cocon, ça se définit comme ça se dit, d'accord? Et le Yetzer Hara, il te dit, moi, j'existe à ta place. Et tu vois bien que le rachat, il fait exactement la volonté de son Yetzer Hara. Donc, lui, il est, regardez bien, représenté par son Yetzer Hara. Donc, personnellement, il n'existe pas. Mais comment le Yetzer Hara, il a trouvé une place pour rentrer chez lui? Parce qu'il était libre. C'est-à-dire, inoccupé, pas libre. Parce qu'il était libre, au contraire, la liberté, c'est la lutte contre le Yetzer Hara. Mais comme il était inoccupé, donc il y en a un qui a dit, je vais m'occuper à ta place. Encore une fois, c'est une loi mécanique qu'il faut retenir. Pour ceux qui ont fait des études plus de 4 ans de physique, quand on est allongé sur la banquette arrière d'une voiture et que la voiture roule, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. Non, c'est très important. Je sais pas, il y a beaucoup qui ont fait de la mécanique. Oui. Ça veut dire que si tu ne prends pas ta vie en main et que quand même tu avances, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. Bah. Chaque acte doit être une décision. Donc si c'est une décision, ça veut dire que c'est l'harmonie entre ta force d'affirmation et ton être, ta possibilité de réalisation. Donc s'il n'y a pas de lien et que tu réalises quand même, c'est que c'est pas toi. Si tu es un somnambule de la vie, parce que c'est Yetzer Hara qui prend ta vie en main, donc tu n'existes pas. Comment il a fait? Parce que t'as laissé vide, t'as laissé un vide. Lui, il a comblé le vide. Ou alors, elle dit la Gemara, et no besimcha, c'est quoi la joie? On a répondu, la joie, c'est le cycle projet, moyen, résultat. Celui qui est occupé à réaliser un projet, tu crois qu'on peut l'arrêter pour lui faire faire une avéra? Il dit, mais je suis occupé. Qu'est-ce que tu veux, un kiff? Il dit, mais j'ai pas le temps. Puisque ton kiff, c'est 5 minutes de kiff, 30 ans de regret. Merci, j'ai pas le temps, excusez-moi, je suis occupé. C'est comme un mec qui t'arrête sur l'autoroute, tu dis, vous avez 10 minutes pour un petit sondage? Je dis, oui, combien de temps? 8 ans. Je vais en vacances. 8 ans! Vite fait, comme ça! On vous fait visiter le royaume de l'horreur. Vous voulez pas? Il dit, comment ça s'appelle? Voilà l'entrée. L'entrée, c'est un toboggan. Avec du savon dessus. D'accord? Et ça sent très mauvais. C'est une expérience unique. Ça s'appelle la force de frottement. Vous descendez dedans et puis vous avez une impression de chaleur qui vous envahit comme ça et vous descendez et puis vous... ça sent mauvais, mais c'est pas grave, vous bouchez le nez et puis c'est de plus en plus mauvais et puis vous-même vous sentez que vous puez et vous êtes un chien ou une chienne mais vous êtes bien parce qu'il fait chaud. Vous voulez ou non? Je peux dire non? Oui. Ciao. Ça s'appelle un sadique. Ou une sadéquette. D'accord? Ou alors, confort existentiel, c'est où la poubelle? C'est là. Tu t'installes bien. Vous savez que les déchets en pourrissant créent de la chaleur. Non, je vous le dis, au cas où vous seriez un jour dans le Tibet ou la perdu dans la neige, les déchets en pourrissant créent de la chaleur. Donc la chaleur est souvent synonyme de pourriture. Ça va? Non? Bon, c'est pas grave. Si c'est comme ça, Si c'est comme ça. Vu l'heure. Donc, celui qui est dans le mouvement, celui qui est dans le projet, celui qui est dans le but. Le problème, il est de définir le but. Alors, automatiquement, c'est là qu'il arrive le problème de se donner des chances. Alors, pour se donner des chances, il y a deux choses. Il y a premièrement de se donner des chances au niveau du vécu, de la logique humaine, ce qu'on appelle le Derech Eretz. On a déjà fait un cours il y a une semaine ou deux semaines, je ne sais plus. Donc, je ne vais pas vous le refaire. Et il y a aussi de se donner des chances au niveau de la Torah. Parce que vous le vouliez ou non, vous êtes des sales juifs. Et comme vous êtes des sales juifs, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un sale juif? Un sale juif, c'est un juif qu'un goy le reconnaît dans la rue. S'il ne le reconnaît pas, c'est que, quelque part, il a un peu de Mathieu en lui. Mathieu. C'est pas Mathieu? Mathieu, Nicolas et Frédéric, les deux fils de Christian de la Croix. Oui. Alors, ici c'est pareil. À partir du moment où vous comprenez que vous êtes des juifs, donc vous avez une neshama, vous avez une âme, et vous avez aussi un corps, et vous avez une personnalité. Alors il faut se débrouiller. Le travail au niveau de la personnalité, c'est de se donner les moyens de faire pour que tu puisses exploiter au mieux tous les flashs de ta neshama. Alors, le travail que tu fais au niveau de la personnalité, c'est le travail d'accepter ses caractéristiques, d'accepter son être, d'accepter ses données, d'accepter le milieu qu'Hachem t'a donné, d'accepter ta famille, d'accepter ton corps. Ça, c'est le travail que tu fais sur la personnalité. Il y a énormément de gens qui vont perdre du temps à se dire « Mais moi, si j'avais été une femme, si j'avais été un homme, si j'avais été riche, si j'avais eu une enfance heureuse, si j'avais eu un père sympa, n'importe quoi. » Ça n'a aucun espèce d'intérêt. Parce que si on t'a donné un stylo qui écrit une fois sur deux, ça veut dire qu'il faut sauter des lignes. C'est adapté. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie exactement ce qui est adapté. Maintenant, toi, tu as deux solutions. Ou tu t'adaptes à ce que Dieu t'envoie, ou tu adaptes Dieu à ce qu'il t'envoie. Bonne chance. Ton épreuve, elle a été préprogrammée depuis la création du monde. Toi, tu vas te confronter à cet exercice-là pour essayer de faire que ton être intérieur se réalise. Si tu es intelligent, qu'est-ce que tu fais? Puisque intelligent veut dire adapté. Donc tu vas t'adapter à la réalité de ton épreuve et dire j'accepte mon épreuve, j'utilise mon épreuve, je m'épanouis avec mon épreuve. C'est la différence entre les bons élèves et les mauvais élèves. Les mauvais élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent l'école, elle est nulle, je suis dans une mauvaise classe, on m'aime pas, on m'a mis en quarantaine, le profil antisémite, mon stylo, il marche jamais, j'ai oublié mon cahier, j'ai mon cartable, je l'ai oublié dans l'autobus. Ça, les mauvais élèves. Ils ont toujours des circonstances atténuantes. D'accord. Les bons élèves, c'est quoi? C'est le mec qui dit, moi, le profil m'aime pas, la classe peut pas me sentir, j'ai oublié ma feuille, j'ai pas de stylo, j'aurai 20. Comment tu vas faire? Pas grave. Ça, c'est les bons élèves. Ça veut dire quoi? C'est ceux qui ont compris que l'école, c'est un outil. Alors que les autres, ils croient que l'école, c'est un pile-outil. Juste pour que le soir, il peut dire à sa mère, « Maman, j'ai encore été écrasé par mes professeurs. Elle m'aime pas. » Mais franchement, écoute, réfléchis. Un professeur, en moyenne, il va t'avoir qu'un an. Tu fais partie d'une classe de 30. D'accord? Lui, il fait son boulot. Il est mal payé, il a peu de vacances, et tu lui mets les nerfs toute la journée. S'il le fait, c'est qu'il a au moins 10% de conviction et 80% de vocation. Donc pourquoi tu crois qu'il t'en veut à toi? Et là-bas, c'est parce que comme tu n'as pas envie de te casser la tête, tu préfères imaginer qu'il t'en veut. Exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à toi. Il t'envoie la vie, c'est le décor. Le professeur, c'est l'Yetzerara. Les exercices, c'est les épreuves. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, c'est pas adapté. J'aime pas la voiture. J'aime pas le genre, j'aime pas le quartier. Eh où? Eh? Oh! Tu bourres un peu? Comprenez? Mais qui t'a dit que t'as le temps de prendre ton temps? Ils sont extraordinaires, les gens. Ouais, parce qu'il a dit faut donner le temps au temps. Trop fort. Trop fort. Faut vraiment être en même temps à gauche et à droite pour dire un truc pareil. Ouais. Ici c'est pareil. Le temps il existe, c'est toi qui donnes le temps au temps. C'est pas le temps qui te donne le temps de prendre le temps d'avoir le temps. Comprenez? Le temps, c'est un parcours, c'est une trame. Tu t'inscris dedans, tu l'exploses, tu avances, ça va. Si tu dis, laissons le temps prendre le temps d'avoir le temps d'être à temps, et ils sont là, c'est comme ça. Sache, il y a une course à faire, on t'a donné une bagnole, elle te plaît pas, ce qui compte, c'est pas la bagnole, c'est le voyage. Et les autres, ils roulent pendant ce temps-là. Et l'autre, il dit, j'aime pas ma bagnole, j'aime pas mon corps, j'aime pas ma famille, j'aime pas mes amis, j'aime pas la société, j'aime pas le temps, j'aime pas. Mais quand est-ce qu'il va commencer à vivre? C'est-à-dire que ce qu'on ne changera jamais, tu essayes de le changer. Comprenez ou non? Tu as fait 84 régimes, tu les as fait tous. Tu connais tous les nutritionnistes du monde. D'accord? Quand est-ce que tu vas comprendre que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dans la boîte? Il y a même des potiches qui sont belles. Que tu te casses la tête. C'est-à-dire que à la fin, le médecin va dire, vous êtes bien dans votre peau. Eh bien, vous êtes mince. Quelqu'un de mince, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau. C'est pas quelqu'un qui est mince, donc il est bien dans sa peau. C'est que comme il est bien dans sa peau, il est mince. Mais vous avez une illusion d'optique. Vous croyez que comme cette personne-là, elle est mince, c'est pour ça qu'elle est bien dans sa peau. Vous voulez que je vous en présente des dizaines de mannequins qui sont mal dans leur peau? Alors pourquoi toi, qui en a 80 ou 83 de plus, tu crois que c'est à cause de ça qu'elle est mal? C'est quoi? Hein? Ah oui. Oh, vous femmes et mannequins, qu'on soit clair. Je savais pas que vous étiez à ce point-là. Ils ont faim, Maggie, ils ont faim. Ils ont très faim. Ouais. Alors, on va vous marier avant la fin de l'année. Bien, bien. Donc, ici, c'est pareil. Le fait de comprendre, de s'adapter à sa réalité au lieu de la fuir, ouais, de croire que les données vont changer, de croire que ça va, qu'on peut faire quelque chose, ça n'a aucun intérêt. Les données, elles sont ce qu'elles sont. Ce qui est important, c'est ce que tu fais avec. Il faut savoir que Victor Hugo, il a écrit les trois quarts de ses œuvres avec des stylos nazes. Alors pourquoi toi, qu'un stylo de folie à pompe électrogène avec implication, injection, t'arrives même pas à écrire un poème, tu t'étonnes pas? Le stylo ne fait pas le poète. C'est tout. Alors bouge-toi, ce qui est marqué ici. Donc tu vas arrêter d'aller dans le sens de ce qui te fait perdre du temps. Par exemple, le refus de tes données. Et tu vas accepter tes données. C'est pour ça que c'est marqué Ezewashir Asamea Bechelko. Qui c'est le riche? Celui qui est content de sa part. Pourquoi il est content de sa part? Parce que c'est sa part. Ça veut dire que si on te propose un costume sur mesure ou cinq costards prêts à porter, tu dois prendre un costume sur mesure. Pourquoi un costume sur mesure, ça coûte 12 000 francs et un prêt à porter, ça coûte 294 francs? Faut quelqu'un arrive, je vous dirai. Ouais, pourquoi? Parce que c'est pas adapté. Et ça, c'est adapté. En vérité, la vie, elle est sur mesure. Elle est sur mesure. Mais comme tu n'aimes pas la tienne, tu regardes le costard de l'autre. Mais comme le costard de l'autre, tu l'auras jamais. Donc il n'y a pas une plus grande perte de temps que de regarder le costard de l'autre. C'est pour ça que la Torah l'a dit, l'autre armode, ne convoite pas. L'autre il t'avait, ne désire pas. Ne regarde pas. Regarde chez toi, que tu regardes chez les autres. C'est la perte de temps. À part la Vera. Mais la Vera, c'est la perte de temps. La Torah te dit, mais ne perds pas ton temps. Oui. La Torah l'a dit, l'autre armode et chez Reacha. Ne convoite pas la femme de ton voisin. Tu sais pourquoi? Je sais plus si je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit, je vous le dis quand même, c'est pas grave. On ne prend pas une femme en quitte. Je vous l'ai dit là? Oh, elle est trop bonne. Tu peux me la faire pour moi? Je peux me la faire? La Torah elle t'a dit, tu prends la femme, elle te correspond. Toi aussi t'es encore un peu mou, un peu malléable, un peu mal démoulé. Et vous travaillez ensemble et vous devenez deux êtres parfaits. Mais comme t'es flemmard, tu dis pourquoi je vais me prendre la tête à bosser avec une femme? Je vais en prendre une qui est déjà bien. Regarde celle-là, elle est belle. Elle est femme, femme entière, femme responsable, femme équilibrée, mère de famille et femme fatale, tout. Tu la prends. Tu dis mais c'est pas la tienne. Alors, c'est pas seulement le problème que t'es un pourri, que t'as cassé une famille, que t'as cassé une maison, non. C'est aussi que tu vas perdre ton temps. Parce qu'imagine-toi que dès que vous serez ensemble, ça ne marchera jamais. Vous ne correspondez pas. Tu comprends, non? L'imprimante n'est pas compatible. Donc elle n'imprime pas. Tu n'es pas compatible. Vous n'êtes pas compatible. Elle, elle est PC. Toi, t'es Mac.
ça marchera jamais.
Est-ce que vous comprenez?
Ça passera pas.
Ouais.
Pourquoi?
Parce qu'elle n'est pas adaptée à toi. Or, de la même manière que tu regardes pas la femme du voisin, tu regardes pas la maison du voisin, tu regardes pas l'argent du voisin. Pourquoi? Parce que c'est pas adapté. Alors maintenant, je vais vous dire aussi un grand fridouche. Les gens y croient, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas de direction. C'est des bêtises. Chaque centime, il connaît son chemin. Donc un centime volé, tu ne peux pas l'utiliser. Donc il va t'amener des problèmes. Est-ce que vous me suivez? Le bien de la personne, c'est la prolongation de l'homme. La Torah, elle a dit, tu mets les téphilines sur le bras, tu mets les téphilines sur la main et la mezouza sur la maison. Pourquoi? Il dit le Maharsha, de la même manière que le cœur doit être soumis à Hachem et le corps. De la même manière, l'esprit doit être soumis à Hachem. De la même manière, tes biens doivent être soumis à Hachem. Donc tes biens, c'est la prolongation de ton corps. Tu dis, mais de la même manière que je dois, regardez bien, je dois faire attention à ce que je fais avec mon corps, féline du bras. Je dois faire attention à ce que je fais avec mes biens. Donc regardez bien, mon corps, il est adapté à moi. T'as jamais vu un type qui t'a dit, oh, le corps de l'autre, il serait mieux adapté à moi. Alors, ouais. Et bien de la même manière, la maison, elle est adaptée à l'autre. Donc si la maison, c'est la prolongation de l'être, donc elle n'est pas adaptée à toi. Et nous sommes tous des êtres différents. Donc c'est pas la peine de regarder chez les autres, puisque c'est pas adapté à toi. C'est la plus grande perte de temps que tu peux avoir. Ça veut dire que, regarde bien, deux volets, tu prends un truc qui n'est pas adapté. Deux convoités, tu perds ton temps. C'est inadapté. Vous pouvez me réveiller le mec. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est clair? Oh, je ne sais pas, peut-être il a un rendez-vous. Je sais pas. Alors. C'est exactement pareil. À partir du moment où quelqu'un va renoncer à ses données, alors il dit Rav Dessler, on lui enlève. Si quelqu'un il pense qu'il n'a pas de valeur, si quelqu'un il pense que la vie n'a pas d'intérêt pour lui, si quelqu'un il pense qu'on peut perdre du temps, et vous savez ce qu'on fait? On lui fait perdre du temps. Pourquoi on fait perdre du temps à quelqu'un? Parce qu'il perd son temps. Mais comme il ne se rend pas compte qu'il perd son temps, alors on lui fait perdre du temps. Par exemple, on rend malade. Il est malade. 15 jours, il ne fait rien. Alors, il se dit, mais pourquoi je ne fais rien pendant 15 jours? Parce que ça fait 2 ans que tu ne fais rien. Et Hachem, il n'arrête pas de te dire, agis. Et toi, tu dis, non, moi, je fais quelque chose. Je fais mouvement d'air. Mouvement d'air, je vais te montrer ce que c'est un mouvement d'air. Au lit. Voilà, tu ne bouges que les paupières. Tu dis, mais je suis inexistant. Eh bien, regarde ta vie, c'est pratiquement la même chose. Pour que tu te rends compte que c'est la perte de temps, fait perdre du temps. Mais si quelqu'un il est agissant, il dit, mais j'ai pas le temps à perdre, j'ai pas le temps à perdre. Eh bien, Hachem, il ne fait pas perdre de temps. Est-ce que vous comprenez? Normalement, un homme équilibré, il devrait être capable de dire à Hachem, excuse-moi, j'ai pas le temps d'être malade. J'ai pas le temps. Vous comprenez ou non? Si la lumière, elle saute dans la salle à manger, il doit dire, mais j'ai pas le temps d'aller chercher une ampoule. Donc elle ne doit pas tomber en panne l'ampoule. Tu dis, mais enfin, ça suit une ampoule. Moi, je me rappelle toujours mon rave, Rav Eman. Quand il y a un truc qui n'allait pas, il dit toujours, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Alors, je ne comprenais pas. Un jour, j'ai compris. Émettre, ce qui est vrai, c'est matim, c'est ce qui va ensemble. Donc, regardez bien. Ce qui va ensemble, c'est les deux moitiés d'une même chose. Donc regardez bien, un besoin, un moyen, ça va ensemble. Maintenant, s'il y a un besoin, il n'y a pas de moyen, ça ne va pas ensemble. Pourquoi un enfant il crie quand il a faim? Parce qu'il ne comprend pas pourquoi ses enfants ne lui donnent pas, ses parents ne lui donnent pas manger. Parce qu'il y a un besoin, un moyen. D'accord? Donc lui, il disait, mais je ne comprends pas, j'étudie la Torah, la lumière elle s'éteint. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas vrai! Le fait de nier, oui, le problème, c'est l'annihiler. Ce problème n'a pas lieu d'être, puisque je suis occupé. Comment on appelle ça? Le bitachon. La confiance en Dieu. C'est pas normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je mange. Je mange. Il faut que je dorme. Je dors. Il faut que j'ai la santé. J'ai la santé. Mais qu'est-ce qu'il peut dire? Il faut. Comment tu peux te permettre de dire il faut? Mais c'est facile. Quand t'as un but, quand t'es clair, il faut. Quand tu rentres dans ton bureau, et il y a un mec qui dit vous rentrez pas, tu dis mais il faut que je rentre. Tu vois bien? Donc si toi, tu as aussi un but dans ton travail d'évolution qui s'appelle d'atteindre Akadosh Baruch Hu, de t'atteindre toi-même. Donc quand on veut t'arrêter, tu dis, je peux pas, je dois devenir. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Donc les gens convaincus n'ont pas d'obstacle. Les gens qui ne sont pas convaincus, ils ont un obstacle. Alors dis-moi, depuis quand la conviction, elle fait fondre des obstacles? Parce que l'obstacle, c'est la prolongation de la volonté qui est mal gérée. Alors que la volonté qui est bien gérée, elle traverse l'obstacle. Puisque Bederer Sherot Seleler Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Alors tu veux des embûches? Embûches. Tu veux démultiplier les exercices? T'as compris, t'as bien compris. Et tu refais 84 fois l'exercice. T'as jamais dit à ton prof, mais ça va, j'ai compris la leçon, pourquoi mon prof fait des exercices? Alors c'est pareil toi. Toi tu vois que t'as toujours la même épreuve. Tu veux toujours la même épreuve. Je vais serrer la main, je serre la main. Je vais faire la bille, je fais pas la bille. Je fais pire, je vais pas. Toujours la même épreuve. Tu veux pas changer un peu, il y en a marre. Tu veux évoluer? Eh bien, c'est facile. Applique ton cours. T'en as marre de faire les mêmes exercices? Eh bien, évolue. Tu veux pas évoluer? Eh bien, arrête les exercices. T'as fait 94 fois que tu redoubles le CP, t'en as pas marre? Non, non. Parce que la morale me donne un petit paquet. Mais t'as 44 ans, ça y est. Ce qui est marqué ici. C'est comme ça.
Je suis tourné là.
Tu peux regarder, s'il vous plaît. Bon, si c'est comme ça. Ah. C'est vrai? Tu m'as fait une grande tour là ce soir. Si c'est comme ça. Alors. Pardon, bon, fâché. Si c'est comme ça. Si c'est comme ça, on peut comprendre maintenant comment est-ce que, en vérité, les Hashmonaïm, quand ils sont arrivés dans le Beth Amikdash, ils ont décidé de faire la mitzvah de la menorah plutôt qu'autre chose. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat, Dafka Bet, c'est marqué que le Ner Amaravi, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs menorotes, mais dans la menorah principale, la lumière qui était la plus à l'ouest, elle restait tout le temps allumée, c'est un miracle. Toute l'année, elle restait allumée, on ne mettait pas d'huile. Elle brûlait perpétuellement. Et le fait que ça brûle, là-bas, c'est marqué dans la Gemara. Pourquoi ça brûlait perpétuellement? Parce que ça témoignait que la Shrina, que la résidence divine, elle résidait en Israël. La présence divine, elle réside en Israël. D'accord? Voilà. Maintenant, les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre. Maintenant, le fait qu'ils aient gagné la guerre, au fond, ils savent très bien que ça ne prouve rien. Parce que eux, leur problème, c'est qu'ils ont compris que quand il y a une épreuve, il y a une remise en cause. Mais quand il y a une solution, c'est pas toujours que la solution, elle a réglé le problème de la remise en cause. Par exemple, il y a un couple qui a un problème, qui a un malaise, d'accord? Ils ont une rivalité, ils ont des difficultés. Et puis au bout, il y en a un qui a gagné. Et l'autre, il s'écrase. Est-ce qu'ils ont gagné, au fond? Ils ont gagné quoi? L'autre, elle est martyre, ou elle, elle est martyre, ou lui, il est martyr. L'autre, il est bourreau. T'as gagné? Eux, ils ont créé une rivalité. C'est quoi une rivalité? Vous savez ce que c'est une rivalité? Une rivalité, c'est une tentative de rapprochement. Et qu'est-ce que c'est une victoire? C'est un échec au rapprochement. C'est-à-dire que quand l'autre, il t'interpelle, gentiment ou méchamment, déjà, il s'adresse à toi. Mais s'il ne t'interpelle pas, ça veut dire que tu es rentré dans le mépris. Mépris, c'est célibat. On se croise. Mais si on s'interpelle gentiment, c'est-à-dire qu'on se donne la chance de faire un. Si on s'interpelle méchamment, c'est aussi qu'on se donne la chance de se faire un. Mais on ne se donne pas le moyen. Si on regarde au premier degré, on dit « Mais pourquoi tu me parles comme ça ?» Si on regarde au deuxième degré, tu dis « Bon, elle me parle mal, il me parle mal, mais il me parle quand même. » Donc, il sent qu'il y a quelque chose derrière. Et hop, tu crées le lien. De la même manière, une épreuve, c'est quoi? C'est la capacité que ton essentiel à toi rencontre l'essentiel de la réalité. Comme je vous ai dit déjà, le nefesh de la réalité. Le nefesh de la réalité, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. La neshama, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Le lien entre l'essentiel de ton être et l'essentiel de la réalité, dans l'espace, ça s'appelle la présence divine. Quand tu as vécu le choc de la rencontre entre la question et la réponse, entre le problème et la solution, tu Tu sais pas exactement si tu as gagné ou si tu as gagné. Je t'explique. De gagner la guerre, ça ne prouve rien. Au fond, ça prouve rien. Peut-être que ça prépare une prochaine défaite, encore pire. Gagner la guerre ne prouve rien. Pourquoi ? Parce que la mise à l'épreuve que Akadosh Baruch Hu t'a envoyé des ennemis, c'est pas pour savoir si tu étais un bon guerrier. Akadosh Baruch Hu t'a envoyé des ennemis pour te dire, attention, comme tu t'éloignes de la Torah et que tu t'occupes comme des profanes, alors moi je vais te donner des occupations profanes, exemple la guerre. T'as rien à faire, alors tu fais la guerre. Le Ben Israël, il a à faire, il a 613 mitzvot, il n'a pas du temps à perdre à faire la guerre. Donc s'il perd du temps à faire la guerre, c'est parce que comme il ne se conduit pas comme un Ben Israël, donc on lui donne des occupations de non-Ben Israël, pour qu'il se rende compte qu'il n'est pas dans le coup. Donc le fait d'avoir gagné la guerre, ça prouve juste que tu es un bon goy. Ça prouve rien. C'est pas le but recherché. Eux, ils voulaient savoir s'ils ont atteint ce que la Torah elle demande. C'est un lien de proximité avec Hachem. Rappelez-vous de ça. Puisque moi, je me crée une distance avec Hachem, alors Hachem, il me crée une épreuve pour que moi, je retrouve la proximité avec Hachem. Oui, comme un mari, il va taquiner sa femme. Alors, il va lui dire, alors tu m'aimes pas ? C'est vrai, tu m'aimes pas ? Alors, évidemment que c'est faux. Elle le sait, lui aussi. Alors, elle va dire, mais oui, je t'adore. Mais non, ça peut mal tourner aussi. Elle peut dire, ben oui, je t'aime pas. Une épreuve, c'est une alternative. Ou ça marche ou ça marche pas. Quand que je m'en crue, t'envoie une épreuve. Ça veut dire, il te dit, alors, Hachem, tu dis, alors, tu m'aimes ou tu m'aimes pas ? Mais non, si toi, tu dis, ouais, j'ai gagné l'épreuve. Mais t'as rien compris. On s'en fout complètement de l'épreuve. Est-ce que vous comprenez ça ? On s'en fout. C'est comme le mec qui dit, papa, tu voulais que je passe ? Voilà, je passe. Mais comment t'as passé, t'étais jamais en cours ? Ben, j'ai triché à tous les examens. Ton père, il est content, il dit, ah, ben, ce qui compte, c'est que tu passes. Il dit, t'es un pauvre type. Mais je m'en fous de l'examen, moi. Moi, je veux que tu deviennes ce que tu apprends. Je veux pas que tu me sortes des résultats. Je m'en fous des résultats, moi. Moi, je veux que tu deviennes. Alors que je m'en crois, t'as créé une épreuve pour que tu deviennes. L'autre, il dit, j'ai réussi l'épreuve. Mais on sent toi. Qu'est-ce que t'es devenu grâce à l'épreuve ? Or, comme tu t'es éloigné d'Hachem, Hachem, il t'a envoyé la guerre. Maintenant qu'il t'a envoyé la guerre, il veut pas savoir si t'as gagné la guerre. Il veut savoir si tu t'es rendu compte qu'Hachem, il t'a envoyé l'épreuve. Comment tu vas prouver que t'as compris que l'épreuve vient d'Hachem ? Parce que toi, ce que tu désires au fond, c'est avoir une preuve que tu as réussi l'épreuve. Qu'est-ce que c'est la réussite de l'épreuve ? L'épreuve, c'était la distance avec Dieu. Le résultat, c'est la proximité avec Dieu. Donc, eux, ils ont fait la mitzvah de la menorah. Plus qu'une autre mitzvah. Parce que cette mitzvah-là, elle signifie que Dieu y réside en Israël. Donc, eux, ils ont pris des puits en fer. Et c'est vrai que d'après l'Halakha, c'est pas une vraie menorah. Il faut une menorah en or qui est faite d'un seul massif. D'accord ? Ils n'ont pas fait une vraie menorah, c'est pas grave. Ils ont mis le mer, ils ont mis de l'huile. C'est vrai qu'ils avaient de l'huile que pour un jour. C'est vrai qu'ils auraient pu prendre de l'huile impure. Mais ils voulaient pas de l'huile impure. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était avoir une preuve qu'ils avaient retrouvé la pureté dans leur relation avec Hachem. Donc ils voulaient mettre que de l'huile pure. Tu te dis, mais comment tu vas faire ? De toute façon, il n'y a pas assez d'huile pour 8 jours. Mais c'est pas leur problème. Eux, ils veulent justement il arrive le miracle. Parce que s'il arrive le miracle et que l'huile continue à brûler alors qu'elle a fini, donc ça prouve qu'un jour, il réside parmi eux. C'est ça qu'ils voulaient. Parce que eux, ils avaient une question profonde, une angoisse profonde. C'est que maintenant, peut-être qu'on est goyim, on est comme des goyim. Maintenant, ce qui compte, c'est la bouffe. Maintenant, ce qui compte, c'est la pensée. Maintenant, ce qui compte, c'est de se bagarrer. Peut-être qu'on est devenu des pathos. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, maintenant, Hachem, il est parti. La Shekhinah, elle est finie. Alors, ils ont allumé le nerf. Quand ils ont vu qu'ils ont gagné la guerre et que le nerf, il est resté allumé, ils ont compris que non seulement ils ont gagné la guerre contre les ennemis, mais ils ont compris qu'ils ont gagné la guerre contre le Yetzer Hara aussi. Donc, ils étaient joyeux. Parce que la plus grande question, c'est... Comment je suis avec Hachem ? La plus grande réponse, c'est je suis bien avec Hachem. N'importe quel juif qui soit le plus empiffré de crevettes, ouais, ou le plus grand des tzadikets, les deux, à les deux extrêmes, il ne se sent bien que dans la Torah. Croyez-moi, il se sent bien que dans la Torah. Maintenant, le problème, c'est que par manque de culture, il a mal défini, il ne sait pas ce que c'est la Torah. Alors l'autre, il mange des crevettes toute l'année, mais quand il voit le drapeau d'Israël, ça lui fait quelque chose. Quand il va au mémorial, ça lui fait quelque chose. Quand il lit un poème de Woody Allen, ça lui fait quelque chose. Parce qu'il a défini sa Torah personnellement. C'est dommage, il lui manque 99,9 de la Torah. D'accord ? Mais en tout cas, c'est par rapport à cette définition. Donc un juif, quand il est proche d'Hachem, il est bien dans sa tête, c'est comme ça. Prenez un juif n'importe lequel, faites-lui une mitzvah, de force. Après vous lui dites, je te rachète la mitzvah pour 1000 balles, il ne voudra pas. Et il a râlé, hein, Amma, pour le faire. Hein. Et quand tu l'as fait, tu lui dis, je te rachète pour 1000 balles. Il mange des crevettes. Il la rendra pas. Et tu dis, non, non. Je la garde. Non, c'est bon. 1000 balles, 2000 balles. Non, je la garde. Pourquoi ? Parce qu'il a senti qu'il avait, il avait un lien avec son essence. Or, si la joie, c'est la perpétuelle recherche de, du lien entre l'être intérieur et l'être extérieur, entre l'épreuve et le résultat, entre la question et la réponse, entre le moyen et, le, et la demande. Donc la joie des joies, c'est le lien que tu entretiens avec HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qu'ils ont voulu, eux. Et ils ont dit, nous, on veut une preuve que HaKadosh Baruch Hu, il réside parmi nous. Mais sinon, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Pourquoi faire? Quel intérêt? Mais c'est zéro. La vie sans HaKadosh Baruch Hu, c'est zéro. La plus belle maison, la plus belle femme, la plus belle bagnole, la plus belle usine, la plus belle carrière. Mais sans Hachem, ça veut dire sans que tu sentes que tu évolues, que tu avances, que tu te rapproches de ton essence. Mais c'est zéro. T'es là, tu dis, ou alors elle est belle, et alors elle est belle. Ouais. Et après, lifting. Alors. Et la baraque, voilà, baraque. Elle est tellement grande qu'il a attrapé un problème à la prostate pour aller aux toilettes. Non, qu'il était. Il a une bagnole, tout le monde l'envie. D'accord. Et bien lui, il a perdu la vie dans cette bagnole. Alors. Quel intérêt ? 0,0. Mais un Ben Israël, il a fait ce qu'on lui demandait. Il a fait sa mitzvah. Il est bien. Il est en accord avec lui-même. En accord avec soi-même. C'est la joie des joies. C'est la joie des joies. Akshbohru, il a demandé que quelqu'un il se débrouille pour atteindre la joie des joies. C'est la mitzvah. C'est pour ça qu'à Hanouka, on allume les nérod de Hanouka. C'est à ça qu'on doit réfléchir. Dans quelle mesure est-ce que moi, j'ai gagné le combat, oui, contre la pensée, oui, grecque, contre l'ennemi, contre l'Yetzerara. Combien, dans quelle mesure est-ce que quand j'allume cette lumière, elle est représentative de la Shrina dans ma maison et dans ma vie, ou alors simplement c'est un petit éclairage comme ça. C'est ça qui doit briller. Est-ce que vous comprenez? De la même manière que quelqu'un qui est heureux, il brille. Il brille. Ça, on dit, il a un visage lumineux. Vous n'avez jamais remarqué ça? Et pourquoi quelqu'un qui est angoissé, on dit, il a un visage sombre? C'est normal. Puisque exister, c'est faire passer l'aneshama vers l'extérieur. Donc, quand tu ouvres, la lumière de l'aneshama, elle sort. Mais quand tu fermes, l'aneshama, elle reste à l'intérieur. Abat-jour. Une tronche d'abat-jour. Même un bel abat-jour, c'est quand même pas lumineux, par définition. Ici, c'est pareil. C'est ce qu'il faut atteindre.